Vous écoutez RFI, 20h30 ici à Paris, 18h30 en temps universel et à Dakar. Et c'est l'heure de retrouver l'actualité africaine. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'infos africaines, début des fouilles archéologiques sur le site de Tiaroy au Sénégal. L'opération vise à déterminer le nombre de tirailleurs africains tués par les forces coloniales dans ce camp de transit de la banlieue de Dakar le 1er décembre 1944. Nous irons ensuite au Mali où le président de la société civile de Ménaka a été enlevé lundi soir. Le rapt s'est déroulé en plein centre-ville de cette localité du nord-est, région proche de la frontière avec le Niger. Enlèvement perpétré par des assaillants non identifié. En République démocratique du Congo, condamnation de l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo Augustin à 10 ans de travaux forcés. Il est accusé de détournement de plus de 245 millions de dollars. Ses avocats dénoncent un jugement illégal. En RDC toujours, nous reparlerons du sujet très sensible des embouteillages à Kinshasa. Les autorités envisagent une série de mesures dont l'interdiction et la circulation des poids lourds entre 5h et 22h. C'est le dossier d'Afrique Soir. À retenir enfin, plus léger, comme tous les mardis, l'Afroclub de DJ Facemaker. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko l'avait annoncé en février dernier. Des fouilles ont commencé sur le site de Tiaroy, en périphérie de Dakar. Il s'agit d'identifier des fosses communes où pourraient être enterrés les tirailleurs massacrés par l'armée française le 1er décembre 1944, alors qu'ils réclamaient leur prime de démobilisation. Objectif, Léalisa Vesterov, tenter de faire la lumière sur le bilan exact de cet épisode effectivement sanglant de la colonisation.
Les fouilles ont commencé il y a une dizaine de jours. Menées par une équipe d'archéologues sénégalais, assistées par l'armée, les recherches se concentrent pour l'heure sur le cimetière militaire de Tiaroy, où des victimes du massacre sont présumées avoir été inhumées. L'objectif, sonder la terre pour localiser des squelettes ou de possibles fosses communes, car l'une des questions est de savoir si les tombes du cimetière militaire de Tiaroy sont vides, si des tirailleurs y ont bien été enterrés ou si ces corps se trouvent dans des fosses communes. Car en 2020, un député français a évoqué l'existence de 3 fosses communes situées sous les tombes anonymes du cimetière dans un rapport sur le massacre présenté au Parlement. Plus de 80 ans après les faits, les inconnues sont donc toujours nombreuses et l'objectif de déterminer le nombre exact de tirailleurs fusillés ce 1er décembre 44 complexe, puisqu'à ce jour, les archives de l'armée française parlent toujours de 35 morts, alors que les historiens les estiment à plus de 350. Aucune limite de temps n'a été fixée aux archéologues de l'université Charente à Dieu de Dakar. Les possibles résultats seront en tout cas consignés dans un livret blanc qui doit être remis au président du Sénégal dans les prochaines semaines et tenu secret d'ici là. Léalisa Vesterov, Dakar, RFI.
Au Mali, le président de la société civile de Ménaka, région du nord-est du pays, frontalière avec le Niger, a été enlevé lundi soir. Sidi Barka a été kidnappé en plein centre-ville par des assaillants non identifiés. David Bachet, plusieurs pistes, dont celle des djihadistes de l'État islamique au Sahel ou celle des bandits locaux, sont envisagées.
Il sortait de la mosquée et rentrait tranquillement chez lui entre 19h30 et 20h. Mais selon l'entourage de Sidi Barka et les notabilités locales jointes par RFI, deux hommes à moto l'attendaient près de son domicile. Après l'avoir intimidé et empêché de fuir en tirant des coups de feu en l'air, les deux assaillants l'ont embarqué de force. Président de la société civile de Ménaka, Sidi Barka est une figure locale. Ces dernières années, il a notamment plaidé la cause des dizaines de milliers de déplacés internes qui ont quitté les localités de la région pour trouver refuge dans la ville de Ménaka. La branche sahélienne de l'État islamique contrôle la quasi-totalité de la région et a récemment pris plusieurs otages au Niger voisin qui seraient détenus dans la région de Ménaka. La piste djihadiste est donc envisagée. L'enlèvement de Sidi Barka pourrait également être l'œuvre de bandits locaux aux motivations purement crapuleuses. À ce stade, aucune revendication ni aucune demande de rançon n'ont été formulées, mais l'enlèvement est encore très récent. L'armée malienne et le MSA, groupe armé local partenaire des forces nationales, sont mobilisées pour les recherches.
Un récit signé David Bachet.
Kinshasa, 105 FM.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a finalement tranché. Ce mardi, elle a condamné l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés. Il est reconnu coupable de détournement de plus de 245 millions de dollars. Des fonds destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, près de Kinshasa, Deux co-accusés sont aussi condamnés, eux, à 5 ans de prison. Il s'agit de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Déogratias Mutombo, et de l'homme d'affaires sud-africain, Christo Groebler. Tous les deux sont actuellement à l'étranger, et ce verdict marque surtout la fin d'une longue saga... judiciaire ouverte en 2021. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulégua.
10 ans de prison à faire appliquer par le procureur général, les 5 ans de privation d'action aux fonctions publiques, du droit de vote et des libérations conditionnelles. C'est moins que les 20 ans de détention requis par le procureur. La Cour a conclu que Matata Ponyo avait conçu, participé et bénéficié au détournement des fonds en validant des paiements surfacturés et des travaux non exécutés. Plus de 156 millions de dollars pour les parcs agro et 89 millions de dollars alloués à la construction du marché international de Kinshasa, deux projets qui n'ont jamais abouti. Sans surprise, la Cour a ordonné la confiscation des biens des 3 hommes au prorata des sommes détournées, un jugement jugé spectaculaire et inique par la défense de Matata Ponyo. L'avocat Laurent Onyemba dit attendre le feu vert de son client pour contester la constitutionnalité de ce jugement devant les mêmes juges. L'opposant encore libre ce soir brandit toujours son immunité de député national. Selon des sources proches du dossier, le parquet général précédent haute cour devrait très prochainement décerner un mandat d'arrêt contre Matata Ponyo. Reste à savoir s'il ne sera pas défendu par l'Assemblée nationale qui avait déjà contesté la poursuite de ses procès sans que la Cour constitutionnelle n'ait sollicité la levée des immunités de l'opposant. Pascal Moulégua, Kinshasa. RFI.
Et nous restons en République démocratique du Congo pour reparler du sujet très sensible des embouteillages à Kinshasa, sujet qui alimente une vive polémique. Les autorités ont déjà testé sans succès plusieurs mesures pour tenter d'endiguer le phénomène des embouteillages dans cette mégapole de 17 millions d'habitants. Cette fois-ci, Pauline Azidi, le ministère provincial des Transports annonce la fin de la circulation des poids lourds entre 5h et 22h.
C'était une mesure en discussion depuis jeudi dernier et elle a donc été adoptée. Plus de circulation de poids lourds dans l'ensemble de la ville de Kinshasa entre 5h et 22h, annonce le ministère provincial des Transports. L'objectif est de fluidifier la circulation sur les différents axes en diminuant le nombre de véhicules et en limitant les paralysies éventuelles en cas de blocage ou de panne d'un camion. En revanche, le projet de circulation alternée en fonction du numéro de plaque d'immatriculation n'a pas été pour le moment retenu, difficile à mettre en place et à faire appliquer, reconnaissent plusieurs proches du dossier. Mais cette annonce limitant les poids lourds ne met pas fin pour autant à la réflexion des autorités autour de la problématique de la circulation à Kinshasa, d'autant plus que le phénomène des embouteillages prend de l'ampleur. Actuellement, il y a près de 20 000 demandes de nouvelles immatriculations par mois, c'est-à-dire 240 000 par an. C'est trop, il faut convaincre les gens de se déplacer autrement, estime un proche du gouverneur de la province. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
On vient de l'entendre, parmi les mesures envisagées, l'interdiction de la circulation des poids lourds entre 5h et 22h et surtout une circulation alternée pour les voitures selon le numéro des plaques d'immatriculation. Alors ces mesures seront-elles suffisantes pour lutter efficacement contre les embouteillages monstres à Kinshasa? Et l'on réponse avec le professeur Gulin Amani, urbaniste et enseignant à l'Institut d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, au micro de Nicolas Sûr.
Ces embouteillages sont le symptôme d'une fabrique urbaine dysfonctionnelle, une urbanisation non maîtrisée, une gouvernance fragmentée, la faiblesse des politiques publiques des transports, une vraie absence d'articulation entre urbanisme, environnement et mobilité. Donc on est dans une vraie crise de mobilité à Kinshasa.
Quelle est selon vous la cause principale de ce phénomène d'embouteillage massif dans Kinshasa ?
Il y a un problème d'organisation dans les plannings de mise en œuvre, disons, de ces projets de réhabilitation de la voirie urbaine. On a lancé des chantiers partout. Et donc, les quelques axes principaux qui restent sont saturés à toutes les heures et que, finalement, on entre dans des goulots d'étranglement que c'est tellement difficile de circuler. Et il y a aussi cette question, bien sûr, des stationnements un peu anarchiques, notamment dans tous les points de carrefour, comme on appelle les nœuds des mobilités.
La situation s'explique-t-elle aussi par le fait, en fait, que tous les Kinois vont au même endroit dans le centre-ville?
Oui, tout le monde vient vers la Gombe le matin pour le travail, puisque c'est là qu'est concentrée la majeure partie des activités, disons, formelles en termes d'emploi. Et dans la soirée, tout ce monde doit se redéployer pour entrer dans la cité. Il y a une absence d'autres pôles pour essayer de décongestionner finalement ce centre-ville de Kinshasa.
Alors on entend que parmi les mesures envisagées figure la remise en place d'une circulation alternée. Est-ce que pour vous, c'est ça qu'il faut faire ?
Non, pas du tout. Déjà qu'on n'arrive pas à faire appliquer les règles minimales de mobilité urbaine, ajouter à cela le fait qu'il faudrait s'assurer que les plats qui circulent sont celles qui devraient circuler, ça créera encore beaucoup d'autres bouchons, beaucoup d'autres conflits. Ce n'est pas une solution appropriée. Mais par contre, il faut réguler la question des stationnements. Il faut voir comment on aère la circulation au niveau des nœuds de mobilité qui sont ces différents carrefours.
Concrètement, on pourrait faire quoi pour fluidifier la circulation à ces nœuds d'engorgement ?
Il faut améliorer la signalisation puisque à certains endroits, il y en a, mais elle ne fonctionne pas. À d'autres où il n'y en a pas, il faut voir finalement comment la police des circulations routières vient structurer cet espace-là, parce que c'est très souvent des endroits où il se crée des aires de stationnement qui durent pour longtemps. Après, il faut voir comment déployer des couloirs des bus prioritaires.
Pour rendre les transports en public plus efficaces.
Plus efficaces, que ce soit le Transco ou Esprit de Vie. Finalement aussi, mieux organiser ou faire un vrai planning pour les décongestionnements des voies secondaires et leur réhabilitation.
Le professeur Gulin Amani, urbaniste et enseignant à l'Institut d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa, répondait aux questions de Nicolas Sûr. Au Cameroun, le président Paul Biya a présidé lui aujourd'hui à Yaoundé les festivités de la 53e édition de la Fête de l'Unité. Il s'agit de la fête nationale camerounaise, une célébration très courue, marquée par la traditionnelle parade civile et militaire à laquelle a participé le tout Yaoundé politico-administratif, avec néanmoins les absences remarquées des principaux opposants au régime. À Yaoundé, le récit de Polycarpe Issamba.
La parade s'est ouverte à 12h30 avec l'arrivée sur le boulevard du 20 mai du président Paul Biya. Le président camerounais réapparaissait ainsi en public après près de 3 mois de retrait dans son village natal Mvomeka, dans le sud du pays. Les observateurs et le public présent ont scruté tous ses faits et gestes et se sont laissés aller à divers commentaires sur son état de forme, notamment pendant le défilé à pied des militaires qu'il a suivi debout pendant 45 minutes. Dans les tribunes, des centaines de personnalités, dont le gouvernement quasi au grand complet, les députés et sénateurs ainsi que les membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Tout ce beau monde a pu profiter du spectacle, notamment la deuxième partie de la parade, plus enjouée et réservée aux civils. Elle a vu défiler des milliers de jeunes élèves et étudiants, ainsi que quelques formations politiques, principalement le RDPC, le parti présidentiel, dont les militants par milliers appelaient à tue-tête à un nouveau mandat de Paul Biya. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont critiqué cette démonstration de force du parti présidentiel, la qualifiant pour certains d'indécente et pour d'autres de campagne électorale déguisée au profit de Paul Biya. À noter aussi l'absence dans les tribunes de ceux des leaders présentés comme les plus farouches opposants au régime, à l'instar de Maurice Kamto du MRC ou encore l'avocat Akere Muna, l'un des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle. Polycarpe Issamba, Yaoundé, RFI.
En France, réaction des parties civiles à la décision rendue vendredi par la juge en charge du dossier Agathe Abiyarimana, la veuve de l'ancien président auto-rwandais Juvenal Abiyarimana, pour son rôle dans le génocide de 1994. La magistrate avait annoncé effectivement la fin de l'instruction sans mise en examen de la prévenue. Réaction de maître Richard Guissagara, avocat de la communauté rwandaise de France et l'une des parties civiles au procès de la veuve Abiyarimana.
Je l'apprends avec stupéfaction et je pense que pour les victimes du génocide commis contre les Tutsis, c'est une décision qui vient comme un coup de massue. Puisque, comme vous devez le savoir, depuis 2007, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Commission de recours des réfugiés qui considérait qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que Mme Agathe Kanziga aurait pris part dans le génocide commis contre les Tutsis. Vous savez, dans tous les procès qui ont donné lieu à des condamnations, il y a toujours des témoignages contradictoires. Mais encore faut-il chercher les bons témoignages. Ça, c'est quand même effarant de voir qu'on considère que le délai d'instruction est déraisonnable, dans la mesure où, comme tout le monde le sait d'ailleurs, si la justice a tardé à démarrer jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas du fait des victimes. Les victimes, elles, à ce jour, continuent toujours à subir les conséquences du génocide qu'ils ont subi.
Un propos recueilli par Esdras Ndikouman. Dans l'actualité également, Mogadiscio, la capitale de la Somalie, théâtre d'une nouvelle attaque terroriste. Plusieurs tirs de mortier ont atteint le quartier d'Alan, près de l'aéroport, très tôt ce matin. L'attaque a été revendiquée dans la foulée par le groupe terroriste Al-Shabaab. Pas de bilan officiel pour le moment.
correspondance régionale Gaëlle Alex.
Au moins 5 mortiers ont touché le quartier d'Alané vers 5h ce matin, confirme une source sécuritaire européenne dans la région. Des témoins qui se trouvaient à l'aéroport d'Aden Adé affirment avoir vu plusieurs tirs et entendu des déflagrations. Très vite, le groupe Al-Shabaab revendique cette attaque à travers un de ses sites internet. Il qualifie le quartier d'Alané de centre de commandement de ses ennemis. Situé près de l'aéroport, Alané est hautement sécurisé. Il accueille les bureaux et résidences des personnels des missions des Nations Unies, de l'Union africaine, de diverses ONG et des ambassades. Cette nouvelle attaque intervient 2 jours après qu'un kamikaze s'est fait exploser près de la base militaire de Damagno à Mogadiscio, tuant au moins 13 recrues. Un attentat condamné hier par les États de la Ligue arabe et l'Union européenne. Depuis plusieurs mois, les Shebab mènent une violente offensive dans les États du centre de la Somalie qui jouxte la capitale. D'après l'Institut américain d'études sur la guerre, ils ont lancé 2 fois plus d'attaques par mois en 2025 que l'année précédente. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
À présent du football, et nous vous proposons d'entendre Alexandre Lafitte, jeune entraîneur français de 28 ans arrivé il y a 2 ans sur le banc du stade d'Abidjan. Il a redressé le club pour le hisser au premier rang. Le stade d'Abidjan a ainsi remporté le championnat d'Ivoirien, sacre décroché ce week-end lors de la 30e et dernière journée, un titre que le club attendait depuis 56 ans. Alexandre Lafitte nous raconte cette épopée.
C'est une aventure exceptionnelle. On savait que depuis quelques matchs, la SEC Mimosa nous poussait à bout et on est allé chercher cette dernière victoire très importante pour aller chercher ce titre que tout un club attendait depuis 56 ans. C'était un moment incroyable pour tout le club, pour tous les gens qui gravitent autour de l'équipe. Donc c'est un moment spécial.
Alexandre Lafitte, quand vous avez pris la tête à la 29e journée, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
On s'est dit que c'était peut-être pour nous cette saison. Et pour expliquer, il y a 2 ans et demi, j'arrive, l'équipe, elle est relégable, on arrive à l'amener en Ligue des Champions CAF, et là, on s'est dit, cette saison, on n'était pas loin, on était tout en haut, et puis on a réussi à prendre cette première place, et là, on s'est dit, c'est peut-être pour nous, et donc, on a rien voulu lâcher, mais on savait que c'était un défi important, parce que quand on arrive à être devant la SEC Mimosa, avec un budget qui est largement supérieur à nous, C'est un exploit exceptionnel.
Voilà Alexandre Lafitte au micro d'Annie Gasnier. Je rappelle que le stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, est toujours en course pour la Coupe nationale et est qualifié pour les demi-finales. À l'écoute de RFI, il est 18h47 en temps universel. Les autres grands titres de l'actualité de ce mardi, c'est avec vous Romain Ozoï.
Et la pression des Européens sur Israël suite à l'intensification de l'offensive militaire à Gaza, le Royaume-Uni passe des paroles aux actes en annonçant la suspension des négociations pour un accord de libre-échange avec Israël. Londres, par ailleurs, convoque l'ambassadrice israélienne au Royaume-Uni. De son côté, l'Union européenne va réexaminer son accord d'association avec Israël. L'annonce a été faite ce mardi par Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne. Cela ne semble pas cependant infléchir Israël. L'armée annonce ce soir qu'elle va amplifier ses mouvements de troupes dans la bande de Gaza. Tandis que sur le plan des négociations, là aussi peu d'avancées, Israël rappelle ses chefs négociateurs à Doha en affirmant que le Hamas campe sur son refus après une proposition américaine pour le retour des otages. En Roumanie, le candidat nationaliste qui demande l'annulation de l'élection présidentielle dont le deuxième tour s'est tenu dimanche et qui a vu la défaite de George Simion face au maire pro-européen de Bucarest, Nikos Ordan. Je demande officiellement à la Cour constitutionnelle d'annuler, écrit-il en majuscule sur X, d'annuler l'élection. Il dénonce des ingérences extérieures dans un message accompagné de drapeaux de la France et de la Moldavie. Et puis le festival de Cannes, 8e journée ce mardi, 2 grands événements. La présence d'abord sur la croisette pour la première fois depuis 15 ans du cinéaste iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident, en lice pour la Palme d'Or, qui est un thriller en forme de défi aux autorités de Téhéran. Et puis ce soir, le premier long métrage en tant que réalisatrice d'une star d'Hollywood, Scarlett Johansson. Le film s'appelle Eleanor the Great.
Ziguinchor 87.6 FM.
Et c'est la seconde partie d'Afrique Soir. Zéphirin Kouadio, on évoque à présent ce combat qui touche 250 000 femmes sur le continent.
Oui, il s'agit de la fistule obstétricale. Une lésion provoquée par un accouchement prolongé et aggravée par l'excision ou lorsque la maman est très jeune. Direction la région de Kolda en Casamance dans le sud du Sénégal où une ONG fait de la prévention et accompagne jusqu'à la guérison les femmes qui en souffrent. Reportage Gwendal Lavina.
À peine arrivées dans le village de Sarikanta, les équipes de l'ONG Tostan distribuent des brochures sur la fistule obstétricale aux habitantes. Parmi elles, Ochiam Balo, qui connaît déjà le sujet. Pendant près de 5 ans, après un accouchement difficile, cette femme de 41 ans a souffert des conséquences physiques et sociales de la fistule.
Je vivais isolée des membres de ma famille. J'avais honte de ne pas pouvoir retenir mes urines et de sentir mauvais. Mais mon mari ne m'a jamais haïe à cause de la maladie. Et contrairement à d'autres femmes, il m'a toujours soutenue. Aujourd'hui, je peux dire que le tabou est brisé, parce que tout le monde m'a vu guérir.
Une évolution dans le comportement au sein des communautés qu'a observé Penda Damso, une agent de mobilisation sociale qui intervient dans toute la région.
Le départ, il y avait de la honte. Voilà, les femmes, des fois, si la sensibilisation se termine, vous allez dans d'autres villages. C'est après qu'on vous interpelle pour vous dire que dans le village que vous avez quitté, il y a une femme porteuse de fistule.
Finte Boiro est le coordinateur de Tostan dans la zone sud du Sénégal. Lui aussi souligne l'importance de la prévention et l'accompagnement dans les soins.
Les capacités des femmes ont été renforcées. C'est pourquoi on a eu aussi à prendre en charge ces femmes victimes de la fistule obstétricale à travers le traitement, la réparation de ces femmes-là.
Une réparation qui prend du temps et sur laquelle le docteur Emmanuel Kazobwenge est spécialisé depuis plus de 10 ans. Le chef du service de chirurgie de l'hôpital régional de Kolda évoque sa prise en charge.
Elle est complexe, elle est multidisciplinaire, elle est sociale, elle est médicale, elle est économique. On nous les amène, on les consulte. S'il faut opérer, on les opère. C'est une chirurgie délicate, une chirurgie peut-être pas urgente, mais une chirurgie bon, parfois avec des échecs. C'est pas étonnant d'avoir une femme multi-opérée. Voilà.
Le médecin se réjouit tout de même de voir de moins en moins de femmes venir consulter pour une fistule obstétricale, grâce, selon lui, à la multiplication des structures sanitaires de proximité qui offrent aux femmes un suivi tout au long de la grossesse et après l'accouchement. Wendell Lavina, Kolda, RFI.
RFI à Kolda, où il est actuellement 18h52.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et l'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous pour sa sélection certifiée Afroclub. Bonsoir Hervé Mondina alias DJ Facemaker.
Et bonsoir à vous Zéphirin Kouadio, mon oncle préféré.
Et mon neveu toujours aussi taquin et badin. Alors vous nous avez concocté une sélection paritaire ce soir. Et on commence avec la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, Aya Nakamura, qui se lance dans la course au tube de l'été.
Et c'est surtout son grand retour sur le titre Balise, un single en duo avec le chanteur Joey Douette-Filet, dévoilé le 15 mai et vous allez très vite reconnaître la signature compa du compositeur franco-haïtien. Balise s'impose déjà comme un sérieux candidat au hit de l'été et le clip tourné sous le soleil dans une villa luxueuse, un décor glamour marqué par l'arrivée spectaculaire de Joey Douette-Filet en hélicoptère, aidera sûrement à décrocher la première place. L'alchimie vocale et les origines culturelles afro des deux artistes rajoutent du charisme au morceau qui arrive seulement quelques jours après la consécration d'Aya Nakamura aux Flammes 2025 où elle a reçu le prix du rayonnement international.
C'est pas de la magie, j'en fais des tonnes avec mes atouts, je matrix. On parle des heures au téléphone, j'avoue, je le matrix. Il dit que je suis chiante et capricieuse, mais je vois la rebelle. Des câlins, des caresses, en vrai l'enroute de moi. Je suis choquée, 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 choquée le pot. Choquée, 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 choquée le pot. T'aimes trop les folles comme moi, assume. Faut du cardio, je te l'avais dit. Mon body space c'est sexy, 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 sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Je minimum, dis compliments, stop, que midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes et de badges. Ça te dérange, tu m'as pas dit.
Voilà, c'était Aya Nakamura et Joey Douette-Filet pour la chanson Badise. On reste dans les douces mélodies avec cette fois le retour de la diva camerounaise Charlotte Dipanda.
Oui, Charlotte Dipanda qui revient après un peu plus d'un an de silence et c'est avec le titre Promesse manquée, une balade introspective aussi poignante que puissante, où se mêlent douleur, lucidité et espoir que Charlotte Dipanda livre un récit personnel qui résonne avec les blessures universelles de l'amour et des relations humaines. Cette chanson est un appel à la résilience, celle de se reconstruire, de retrouver sa paix intérieure et d'oser un avenir plus libre.
Je t'avais dit quoi? Je voulais attendre. Tu me disais, tu sais, sans foi ni loi, t'as joué la carte.
pour les promesses manquées de la Camerounaise Charlotte Dipanda. On change de rythme avec le chanteur ivoirien Lil J Benchmark, en duo ici avec le rappeur gabonais L'Oiseau Rare.
En effet, Lil J Benchmark et L'Oiseau Rare ont secoué les sorties Afro Dance Floor avec Gamme de Boss, leur nouveau single percutant. La collaboration entre les deux artistes est née d'une volonté commune de créer un pont musical entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, et c'est via les réseaux sociaux que leur connexion s'est faite. Gamme de Boss est une véritable déclaration d'ambition et de détermination dans laquelle Lil J Benchmark et L'Oiseau Rare affirment leur confiance en leur talent et leur capacité à conquérir de nouveaux sommets, une initiative saluée par le public.
On cherche l'argent à cause des femmes, ma chérie, tu t'appelles combien? Donne ton piri.
C'est champagne qui fait dormir, sinon à tout te fait bander.
Daniel en boîte, as de pique,
tu n'ignores rien, c'est les fouteurs de troupe.
Gamme de Boss, j'ai mis des pieds dans pouf, c'est les bons pains dans mon salon.
Nous on veut les go, ouare, ouare, les vrais mousseaux qui vont finir notre temps.
Elle me dit qu'elle veut l'injelle, elle est pas là, pas là, depuis Golo Kala, eh, Abata.
Voilà. Voilà, après l'énergie de Lil J Benchmark et L'Oiseau Rare, c'est l'heure de conclure votre sélection. Et c'est au Sénégal que l'on se dirige avec Nick Silver et le rappeur ISS 814.
Oui, Nick Silver qui, comme son nom ne l'indique pas, est un chanteur congolais originaire de la ville de Pointe-Noire. Il est en train de monter sur la scène afro R&B et s'associe à l'artiste sénégalais ISS 814 pour dévoiler Lonely, une collaboration émotive et élégante sur une production soignée portée par deux voix masculines. Bien qu'il soit installé au Sénégal depuis de nombreuses années, Nick Silver reste accroché à ses racines congolaises tout en revendiquant une identité musicale panafricaine, ouverte et ancrée dans le réel.
Oh baby, tell me why tu m'as accroché au nez. C'est vrai, je t'ai fait du sale et t'as pardonné. Je t'ai vidé toutes tes larmes et ton âme ne veut plus de sentiments.
Ouah, parle-moi pour faire que mon mal attogne. Non, là, les bogeys m'ont parlé du tour, c'est rangogne. Je suis désolé, tous les niggas méritent ce life, baby, I know.
Pour toi j'ai dû donner tout mon love, mais t'avais aussi besoin de mon time. Y'a que toi dans ma mind, ah, ah, yeah.
Linga bug, mon gutin, man.
Eh bien, c'est avec Nick Silver et ISS 814 que nous refermons les portes de l'Afroclub de ce mardi 20 mai avec à la présentation Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Une sélection disponible déjà sur notre application RFI Pure Radio.
Et aussi sur notre site internet RFI.fr. Je vous retrouve ce jeudi avec au programme le nouveau morceau de Taïk, le retour du rappeur burkinabé Hugo Boss et la séquence rétro avec Elton John. Et d'ici là, je laisse nos auditeurs avec le tonton de l'information africaine, j'ai nommé Zéphirin Kouadio.
Arrête ton cinéma, tu te fais des films et caca, you know.
On les vit dans le nice, gnom gnom gnom. Yo, qu'est-ce que j'ai dit sur mon rôle? Halle bibo gna. Yo, gnom 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 gnom.
Tu l'as. Je pense à nous et j'ai des flashbacks. Je suis dans la zig, je fais du pif, faut que je cache.
Voilà la sélection Afro Club de DJ Facemaker que vous retrouverez bien sûr jeudi prochain. Pour l'heure, RFI Soir, suite et fin, c'est avec Romain Ozoui.
Merci beaucoup Zéphirin Kouadio pour cette première édition d'Afrique Soir, très riche de ce mardi. On va jeter un coup d'œil parce qu'évidemment votre session soir, et vous le savez, elle se poursuit encore pendant une heure sur RFI. Une minute, ce sera le journal de 19h temps universel d'Adrien Delgrange. Et ensuite, eh bien, ce soir, c'est mardi politique. Invité Eva Sass ce soir, députée écologiste et sociale de Paris, secrétaire de l'Assemblée nationale. Elle répondra à Rosine Fèvre et Frédéric Rivière. Et puis, dans 40 minutes, le grand reportage de ce mardi qui nous emmènera au cœur du plus ancien des parcs nationaux du Gabon, le parc national de Lopé-Oganda, où l'enjeu aujourd'hui est de sauvegarder le patrimoine naturel et humain du pays. Restez avec nous sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
La rougeole, une maladie très contagieuse et évitable grâce au vaccin.
Jeudi.
Le diabète, 800 millions d'adultes concernés dans le monde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Ce mardi sur RFI.
Jusqu'où nous entraînerons les femmes de science au Sénégal?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Elles sont hématologues, planétologues, géologues ou dans la tech. Quatre chercheuses d'exception partagent leur parcours avec les lycéennes de première scientifique du lycée Kennedy à Dakar. Émission 100% femmes de science, enregistrée in situ dans ce lycée public de jeunes filles à Dakar.
Autour de la question, tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.